Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 2, chapitre 5. L'Université de Wittenberg, premiers enseignements, leçons bibliques, sensations, prédication à Wittenberg, la vieille chapelle, impression. C'était l'an 1502 que l'électeur Frédéric avait fondé à Wittenberg une nouvelle université. Frédéric avait déclaré dans l'acte par lequel il avait confirmé cette haute école que lui et ses peuples se tourneraient vers elle comme vers un oracle. Il ne pensait pas alors que cette parole serait si magnifiquement justifiée. Deux hommes appartenant à l'opposition qui s'étaient formés contre le système scolastique, Polyk de Mellerstadt, docteur en médecine, en droit et en philosophie, et Stopitz, avaient eu une grande influence sur la fondation de cette école. L'université déclara qu'elle prenait Saint-Augustin pour son patron et ce choix présageait quelque chose. En possession d'une grande liberté et regardé comme un tribunal auquel, dans les cas difficiles, appartenait la décision suprême, cette nouvelle institution, tout à fait propre à devenir le berceau de la Réformation, a puissamment contribué au développement de Luther et de son œuvre. Arrivé à Wittenberg, Luther se rendit au couvent des Augustins où une cellule lui fut assignée, car quoique professeur, il ne cessa pas d'être moine. Il était appelé à enseigner la physique et la dialectique. On avait eu égard sans doute en lui assignant ses fonctions aux études philosophiques qu'il avait faites à Erfurt et au grade de maîtresse art dont il était revêtu. Ainsi Luther, qui avait alors faim et soif de la parole de Dieu, se voyait obligé de se livrer presque exclusivement à l'étude de la philosophie scolastique d'Aristote. Il avait besoin du pain de vie que Dieu donne au monde et il devait s'occuper de subtilités humaines. Quelle contrainte! Que de soupirs ne poussa-t-il pas? « Je suis bien par la grâce de Dieu, » écrit-il à Braun, « si ce n'est que je dois étudier de toutes mes forces la philosophie. J'ai désiré vivement, dès mon arrivée à Wittenberg, d'échanger cette étude contre celle de la théologie. Mais, ajouta-t-il, pour que l'on ne crût pas que c'était de la théologie du temps qu'il était question, c'est de cette théologie qui recherche le fruit de la noix, la pulpe du froment et la moelle des os que je parle. Quoi qu'il en soit, Dieu est Dieu, continue-t-il avec cette confiance qui fut l'âme de sa vie. L'homme se trompe presque toujours dans ses jugements, mais celui-ci est notre Dieu. Il nous conduira avec bonté au siècle des siècles. » Les travaux que Luther fut alors obligé de faire lui furent d'une grande utilité pour combattre plus tard les erreurs des scolastiques. Il ne pouvait s'en tenir là. Le désir de son cœur devait s'accomplir. Cette même puissance qui, quelques années auparavant, avait poussé Luther du barreau vers la vie religieuse, le poussait maintenant de la philosophie vers la Bible. Il se mit avec zèle à l'étude des langues anciennes, et surtout du grec et de l'hébreu, afin de puiser la science et la doctrine dans les sources mêmes d'où elles jaillissent. Il fut toute sa vie infatigable au travail. Quelques mois après son arrivée à l'université, il demanda le grade de bachelier en théologie. Il l'obtint à la fin de mars 1509, avec la vocation particulière de se livrer à la théologie biblique ad biblia. Tous les jours, à 1 h après-midi, Luther était appelé à parler sur la Bible. Heure précieuse pour le professeur et pour les disciples qui les faisaient pénétrer toujours plus avant dans le sens divin de ces révélations longtemps perdues pour le peuple et pour l'école. Il commença ses leçons par l'explication des psaumes et en vint bientôt à l'épître aux Romains. Ce fut surtout en la méditant que la lumière de la vérité entra dans son cœur. Retiré dans sa tranquille cellule, il consacrait des heures à l'étude de la parole divine, l'épître de saint Paul ouverte devant lui. Un jour, parvenu au 17e verset du premier chapitre, il y lut ce passage du prophète Habacuc. « Le juste vivra par la foi. » Cet enseignement le frappe. Il y a donc pour le juste une autre vie que celle du reste des hommes. Et cette vie, c'est la foi qui la donne. Cette parole qu'il reçoit dans son cœur comme si Dieu même l'y déposait, lui dévoile le mystère de la vie chrétienne et augmente en lui cette vie. Longtemps après, au milieu de ses nombreux travaux, il croyait encore entendre cette voix « Le juste vivra par la foi ». Les leçons de Luther ainsi préparées ressemblaient peu à ce qu'on avait entendu jusqu'alors. Ce n'était pas un rhéteur d'Isère ou un scolastique pédant qui parlait. C'était un chrétien qui avait éprouvé la puissance des vérités révélées, qui les tirait de la Bible, qui les sortait du trésor de son cœur et les présentait toutes pleines de vie à ses auditeurs étonnés. Ce n'était pas un enseignement d'homme, c'était un enseignement de Dieu. Cette exposition toute nouvelle de la vérité fit du bruit. La nouvelle s'en répandit au loin et attira l'université récemment fondée, une foule de jeunes étudiants étrangers. Plusieurs professeurs même assistaient aux leçons de Luther, entre autres Mellerstad, appelé souvent la lumière du monde, premier recteur de l'université, qui, déjà à Leipzig, où il avait été auparavant, avait vivement combattu les ridicules enseignements de la scolastique, avait nié que la lumière créée le premier jour fût la théologie et avait soutenu que l'étude des lettres devait être la base de cette science. « Ce moine, disait-il, déroutera tous les docteurs, car il se fonde sur la parole de Christ, et personne au monde ne peut ni combattre ni renverser cette parole, quand même il l'attaquerait avec toutes les armes de la philosophie, des sophistes, des scotistes, des albertistes, des thomistes et avec tout le tartaret. » Staupitz, qui était la main de la Providence pour développer les dons et les trésors cachés dans Luther, l'invita à prêcher dans l'église des Augustins. À cette proposition, le jeune professeur recula. Il voulait se borner aux fonctions académiques. Il tremblait à la pensée d'y ajouter celle de la prédication. En vain, Staupitz le sollicitait. « Non, non, répondait-il, ce n'est pas une petite chose que de parler aux hommes à la place de Dieu. » Touchante humilité dans ce grand réformateur de l'Église. Staupitz insista, mais l'ingénieux Luther trouvait, dit un de ses historiens, 15 arguments, prétextes et défaites pour se défendre de cette vocation. Enfin, le chef des Augustins, continuant toujours son attaque, « Ah, monsieur le docteur, dit Luther, en faisant cela, vous m'ôtez la vie, je ne pourrai pas y tenir 3 mois. »« À la bonne heure, répondit le vicaire général, qu'il en soit ainsi au nom de Dieu, car notre Seigneur Dieu a aussi besoin là-haut d'hommes dévoués et habiles. » Luther dut se rendre. Au milieu de la place de Wittenberg se trouvait une vieille chapelle en bois de 30 pieds de long sur 20 de large, dont les cloisons soutenues de tous côtés tombaient en ruine. Une vieille chaire, faite de planches et haute de 3 pieds, recevait le prédicateur. C'est dans cette misérable chapelle que commença la prédication de la Réforme. Dieu voulut que ce qui devait rétablir sa gloire eût les commencements les plus humbles. On venait seulement de poser les fondements de l'église des Augustins, et en attendant qu'elle fût achevée, on se servait de ce temple chétif. Ce bâtiment, ajoute le contemporain de Luther qui nous rapporte ces circonstances, peut bien être comparé à l'étable où Christ naquit. C'est dans cette misérable enceinte que Dieu a voulu, pour ainsi dire, faire naître une seconde fois son Fils bien-aimé. Parmi ces milliers de cathédrales et d'églises paroissiales dont le monde est rempli, il n'y en eut alors aucune que Dieu choisit pour la prédication glorieuse de la vie éternelle. Luther prêche. Tout frappe dans le nouveau prédicateur. Sa figure pleine d'expression, son air noble, sa voix pure et sonore captivent les auditeurs. Avant lui, la plupart des prédicateurs avaient cherché plutôt ce qui pouvait amuser leur auditoire que ce qui pouvait le convertir. Le grand sérieux qui domine dans les prédications de Luther et la joie dont la connaissance de l'Évangile a rempli son cœur donnent à la fois à son éloquence une autorité, une chaleur et une onction que n'eurent point ses devanciers. Doué d'un esprit prompt et vif, dit l'un de ses adversaires, d'une mémoire heureuse et se servant avec une facilité remarquable de sa langue maternelle, Luther ne le céda en éloquence à aucun de son âge. Discourant du haut de la chair comme s'il eût été agité de quelque forte passion, accommodant son action à ses paroles, il frappait d'une manière surprenante les esprits de ses auditeurs et comme un torrent il les entraînait où il voulait. Tant de force, de grâce et d'éloquence ne se voit que rarement chez les peuples du Nord. Il avait, dit Bossuet, une éloquence vive et impétueuse qui entraînait les peuples et les ravissait. Bientôt, la petite chapelle ne put plus contenir les auditeurs qui s'y pressaient en foule. Le conseil de Wittenberg choisit alors Luther pour son prédicateur et l'appela à prêcher dans l'église de la ville. L'impression qu'il y produisit fut plus grande encore. La force de son génie, l'éloquence de sa diction et l'excellence des doctrines qu'il annonçait étonnaient également ses auditeurs. Sa réputation se répandit au loin et Frédéric le Sage vint lui-même une fois à Wittenberg pour l'entendre. Une vie nouvelle avait commencé pour Luther. À l'inutilité du cloître avait succédé une grande activité. La liberté, le travail, l'action vive et constante à laquelle il pouvait se livrer à Wittenberg achevèrent de rétablir en lui l'harmonie et la paix. Maintenant, il était à sa place et l'œuvre de Dieu devait développer bientôt sa marche majestueuse. Livre 2, chapitre 6. Voyage à Rome, un couvent du Pô, maladie à Bologne, souvenir dans Rome, dévotion superstitieuse, profanation du clergé, conversation, désordre dans Rome, études bibliques, l'escalier de Pilate, influence sur sa foi et sur la réforme, la porte du paradis, confession de Luther. Luther enseignait à la fois dans la salle académique et dans le temple, lorsqu'il fut arrêté dans ses travaux. En 1510, selon quelques-uns seulement en 1511 ou 1512, on l'envoya à Rome. 7 couvents de son ordre étaient, sur certains points, de notre avis que le vicaire général. La vivacité d'esprit de Luther, la puissance de sa parole, son talent pour la discussion, le firent choisir pour être auprès du pape l'agent de ces 7 monastères. Cette dispensation divine était nécessaire à Luther. Il fallait qu'il connût Rome. Plein de préjugés et des illusions du cloître, il se l'était toujours représenté comme le siège de la sainteté. Il partit. Il traversa les Alpes, mais à peine était-il descendu dans les plaines de la riche et voluptueuse Italie qu'il trouva sur tous ses pas des sujets d'étonnement et de scandale. Le pauvre moine allemand fut reçu dans un riche couvent des bénédictins situé sur le Pô en Lombardie. Ce couvent avait 36 000 ducats de rente. 12 000 ducats étaient consacrés à la table, 12 000 aux édifices et 12 000 aux autres besoins des moines. La richesse des appartements, la beauté des habits, la recherche des mets frappèrent également Luther. Le marbre, la soie, le luxe sous toutes ses formes, quel nouveau spectacle pour l'humble frère du pauvre couvent de Wittenberg! Il s'étonna et se tut. Mais le vendredi étant arrivé, quelle surprise! Des viandes abondantes couvraient encore la table des bénédictins. Alors il se résolut à parler. « L'Église, leur dit-il, et le pape défendent de telles choses. » Les bénédictins s'indignèrent de cette réprimande du grossier Germain. Mais Luther ayant insisté et les ayant peut-être menacés de faire connaître leur désordre, quelques-uns crurent que le plus simple était de se défaire de leur hôte importun. Le portier du couvent l'avertit qu'il courait des dangers en restant davantage. Il se sauva donc de ce monastère épicurien et arriva à Bologne où il tomba dangereusement malade. On a voulu voir dans cette maladie les suites d'un empoisonnement. Il est plus simple de supposer que le changement de vie affecta le frugal moine de Wittenberg, accoutumé à avoir pour principale nourriture des harengs et du pain. Cette maladie ne devait point être à la mort, mais à la gloire de Dieu. La tristesse, l'accablement qui lui était naturel, s'emparèrent de lui. Mourir ainsi, loin de l'Allemagne, sous ce ciel brûlant, en la terre étrangère, quel sort! Les angoisses qu'il avait ressenties à Erfurt se réveillèrent avec puissance. Le sentiment de ses péchés le troubla, la perspective du jugement de Dieu l'épouvanta, mais au moment où ses terreurs avaient atteint le plus haut degré, cette parole de saint Paul qu'il avait déjà frappée à Wittenberg, « Le juste vivra par la foi », Romains chapitre 1 verset 7, se présenta avec force à son esprit et vint éclairer son âme comme un rayon du ciel. Restauré, consolé, il recouvra bientôt la santé et il se remit en route pour Rome, s'attendant à y trouver une toute autre vie que celle des couvents lombards et impatient d'effacer par la vue de la sainteté romaine les tristes impressions qu'avait laissées dans son esprit son séjour sur le Pô. Enfin, après un pénible voyage sous le soleil brûlant de l'Italie, au commencement de l'été, il approchait de la ville aux 7 montagnes. Son cœur était ému. ses yeux cherchaient la reine du monde et de l'Église. Dès qu'il découvrit de loin la cité éternelle, la ville de Saint-Pierre et de Saint-Paul, la métropole de la catholicité, il se prosterna en terre en s'écriant « Rome sainte, je te salue !» Luther est dans Rome. Le professeur de Wittenberg est au milieu des ruines éloquentes de la Rome des consuls et des empereurs, de la Rome des confesseurs de Jésus-Christ et des martyrs. Là se sont trouvés ce Plaute et ce Virgile dont il avait emporté les œuvres dans son cloître, et tous ces grands hommes dont l'histoire a si souvent fait battre son cœur. Ils retrouvent leurs statues, les décombres des monuments qui attestent leur gloire. Mais toute cette gloire, toute cette puissance a passé. Il en foule aux pieds la poussière. Il se rappelle à chaque pas les tristes pressentiments de Scipion, versant des larmes à la vue de Carthage en ruine, de ses palais brûlés, de ses murs détruits, et s'écriant « Il en sera de même de Rome ». Et, en effet, dit Luther, la Rome des Scipions et des Césars a été changée en un cadavre. Il y a tant de décombres que les fondements des maisons reposent à cette heure où se trouvaient jadis les toits. C'est là, ajoutait-il, en jetant un regard mélancolique sur ces ruines, c'est là qu'ont été les richesses et les trésors du monde. Tous ces débris contre lesquels ses pas viennent se heurter disent à Luther, dans les murs de Rome même, que ce qui est le plus fort aux yeux des hommes peut être facilement détruit par le souffle du Seigneur. Mais à des cendres profanes se mêlent des cendres saintes. Il s'en souvient. Le lieu de sépulture des martyrs n'est pas loin de celui des généraux de Rome et de ses triomphateurs. Rome chrétienne avec ses douleurs a plus de puissance sur le cœur du moine saxon que Rome païenne avec sa gloire. C'est ici qu'arriva cette lettre où Paul écrivait « Le juste est justifié par la foi ». Il n'est pas loin du marché d'Appius et des trois hôtelleries. Là était cette maison de Narcisse, ici ce palais de César où le Seigneur délivra l'apôtre de la gueule du lion. Oh, combien ces souvenirs fortifient le cœur du moine de Wittenberg. Rome présentait alors un tout autre aspect. Le belliqueux Jules II occupait le siège pontifical et non Léon X, comme l'ont dit sans doute par inattention quelques historiens distingués de l'Allemagne. Luther a souvent raconté un trait de ce pape. Quand on lui apporta la nouvelle que son armée venait d'être battue par les Français devant Ravenne, il était à réciter ses heures. Il jeta le livre contre terre et dit en prononçant un horrible jurement « Eh bien, te voilà devenu Français. Est-ce ainsi que tu protèges ton Église ?» Puis, se tournant du côté du pays aux armes duquel il pensait avoir recours, « Saint Suisse, priez pour nous !» L'ignorance, la légèreté et la dissolution, un esprit profane, le mépris de tout ce qui est sacré, un commerce honteux des choses divines, voilà le spectacle qu'offrait cette malheureuse cité. Cependant, le pieux moine demeura quelque temps dans ses illusions. Arrivé vers l'époque de la fête de Saint-Jean, il entend les Romains répéter autour de lui un proverbe répandu parmi ce peuple. « Bienheureuse, disait-on, est la mère dont le fils dit une messe la veille de la Saint-Jean. » « Oh, que je voudrais rendre ma mère bienheureuse !» se disait Luther. Le pieux fils de Marguerite chercha donc à dire une messe ce jour-là, mais il ne le put, la presse était trop grande. Fervent et débonnaire, il parcourait toutes les églises et les chapelles. Il croyait tous les mensonges qu'on y débitait. Il s'acquittait avec dévotion des pratiques de sainteté qui y étaient requises, heureux de pouvoir faire tant d'œuvres pies dont ses compatriotes étaient privés. « Oh, combien je regrette !» se disait à lui-même le pieux Allemand. « Que mon père et ma mère vivent encore, que j'aurai du plaisir à les délivrer du feu du purgatoire avec mes messes, mes prières et tant d'autres œuvres aussi admirables. » Il avait trouvé la lumière, mais les ténèbres étaient loin d'être entièrement chassées de son entendement. Son cœur était converti, son esprit n'était point encore éclairé. Il avait la foi et l'amour, mais il n'avait pas la science. Ce n'était pas peu de chose que de sortir de cette profonde nuit qui depuis tant de siècles couvrait la terre. Luther dit plusieurs fois la messe à Rome. Il le fit avec toute l'onction et la dignité qu'une telle action lui semblait requérir. Mais quelle affliction saisit le cœur du moine saxon en voyant le triste et profane mécanisme des prêtres romains en célébrant le sacrement de l'autel. Les prêtres, de leur côté, riaient de sa simplicité. Un jour qu'il officiait, il se trouva qu'à l'autel voisin, on avait déjà lu 7 messes avant qu'il en eût lu une seule. « Marche, marche !» lui cria l'un des prêtres. « Renvoie vite à Notre-Dame, son fils !» faisant ainsi une allusion impie à la transsubstantiation du pain en corps et en sang de Jésus-Christ. Une autre fois, Luther n'en était encore qu'à l'évangile, que le prêtre qui était à côté de lui avait déjà fini sa messe. « Pas ça, pas ça !» lui cria celui-ci. « Dépêche, dépêche, et donc une fois fini !» Son étonnement fut plus grand encore quand il découvrit dans les dignitaires de la papauté ce qu'il avait trouvé dans les simples prêtres. Il avait mieux espéré d'eux. Il était de bon ton, à la cour papale, d'attaquer le christianisme, et l'on ne pouvait passer pour un homme comme il faut si l'on n'avait pas sur les dogmes de l'Église quelque opinion erronée ou hérétique. On avait voulu prouver à Érasme, par des passages de Pline, qu'il n'y a aucune différence entre l'âme des hommes et celle des bêtes, et de jeunes courtisans du pape prétendaient que la foi orthodoxe était le produit des inventions astucieuses de quelques saints. La qualité d'envoyé des Augustins d'Allemagne qu'avait Luther le fit inviter à plusieurs réunions d'ecclésiastiques distingués. Un jour en particulier, il se trouva à table avec divers prélats. Ceux-ci se montrèrent ingénument à lui dans leurs mœurs bouffonnes et leurs conversations impies, et ils ne se gênèrent point de faire en sa présence mille plaisanteries, le croyant sans doute du même esprit qu'eux. Ils racontèrent entre autres devant le moine, en riant et en tirant gloire, comment à l'autel, lorsqu'il disait la messe, au lieu des paroles sacramentales qui doivent transformer le pain et le vin en chair et en sang du Sauveur, il prononçait sur le pain et le vin ces mots dérisoires « Panis es et panis manebis vinum, es et vinum manebis ». Pain tu es et pain tu resteras, vin tu es et vin tu resteras. Puis, continuait-il, nous élevons l'ostensoir et tout le peuple adore. Luther peut à peine en croire ses oreilles. Son esprit, doué de beaucoup de vivacité et même de gaieté dans la société de ses amis, avait une grande gravité quand il s'agissait des choses saintes. Les plaisanteries de Rome le scandalisaient. « J'étais, dit-il, un jeune moine grave et pieux. De telles paroles m'affligeaient vivement. Si l'on parle ainsi à Rome à table, librement et publiquement, pensais-je en moi-même, que serait-ce si les actions répondaient aux paroles, et si tous, papes, cardinaux, courtisans, disaient ainsi la messe ? Et moi qui leur en ai entendu lire dévotement un si grand nombre, comme ils m'auraient trompé ?» Luther se mêlait souvent aux moines et aux bourgeois de Rome. Si quelques-uns exaltaient le pape et les siens, le plus grand nombre donnait un libre cours à leurs plaintes et à leurs sarcasmes. Que n'avait-on pas à raconter sur le pape régnant, sur Alexandre VI et sur tant d'autres ? Un jour, ses amis romains lui racontaient comment César Borgia, s'étant enfui de Rome, fut pris en Espagne. Comme on allait le juger, il cria miséricorde dans sa prison et demanda un confesseur. On lui envoya un moine. Il le tua, se couvrit de son capuchon et s'échappa. « J'ai entendu cela à Rome, c'est une chose certaine, » dit Luther. Un autre jour, passant par une grande rue qui conduisait à l'église de Saint-Pierre, il s'était arrêté tout étonné devant une statue en pierre représentant un pape sous la figure d'une femme, tenant un sceptre, revêtu du manteau papal et portant un enfant dans ses bras. « C'est une fille de Mayence, lui dit-on, que les cardinaux choisirent pour pape et qui accoucha à cette place. Ou si jamais un pape ne passe dans cette rue. » « Je m'étonne, dit Luther, de ce que les papes laissent subsister cette figure. » Luther avait cru trouver l'édifice de l'église entouré de splendeur et de force, mais ses portes étaient enfoncées et ses murailles consumées par le feu. Il voyait les désolations du sanctuaire et il reculait d'effroi. Il n'avait rêvé que sainteté et il ne découvrait que profanation. Les désordres hors des temples ne le frappaient pas moins. « La police est à Rome dure et sévère, » disait-il. « Le juge ou capitaine parcourt toutes les nuits la ville à cheval avec 300 serviteurs. Il arrête quiconque se trouve dans les rues. Rencontre-t-il un homme armé, il le pend ou le jette dans le Tibre. Et cependant, la ville est remplie de désordres et de meurtres, tandis que là où la parole de Dieu est purement et droitement annoncée, on voit régner l'ordre et la paix sans qu'il y ait besoin de la loi et de ses rigueurs. On ne saurait croire que de péchés et d'actions infâmes se commettent dans Rome, dit-il encore. Il faut le voir et l'entendre pour le croire. Aussi a-t-on coutume de dire, s'il y a un enfer, Rome est bâtie au-dessus, c'est un abîme d'où sortent tous les péchés. Ce spectacle fit déjà alors une grande impression sur l'esprit de Luther. Elle augmenta plus tard. Plus on approche de Rome, plus on trouve de mauvais chrétiens, disait-il plusieurs années après. On dit communément que celui qui va à Rome y cherche pour la première fois un fripon, que la seconde fois il le trouve, et que la troisième fois il l'emporte avec lui au moment où il en sort. Mais maintenant on est devenu si habile que l'on fait les trois voyages en un. L'un des génies les plus tristement célèbres, mais aussi les plus profonds de l'Italie, Machiavel, qui vivait à Florence quand Luther y passa pour se rendre à Rome, a fait la même remarque. Le plus grand symptôme, dit-il, de la ruine prochaine du christianisme, par où il entendait le catholicisme romain, c'est que plus les peuples se rapprochent de la capitale de la chrétienté, moins on trouve en eux d'esprit chrétien. Les exemples scandaleux et les crimes de la cour de Rome sont cause que l'Italie a perdu tout principe de piété et tout sentiment religieux. Nous autres Italiens, continue le grand historien, nous devons principalement à l'Église et aux prêtres d'être devenus des impies et des scélérats. Luther sentit plus tard tout le prix de ce voyage. « Quand on me donnerait 100 000 florins, disait-il, je ne voudrais pas ne pas avoir vu Rome. » Ce voyage lui fut aussi très avantageux sous le rapport de la science. Comme Reuchlin, Luther sut profiter de son séjour en Italie pour pénétrer plus avant dans l'intelligence de l'Écriture sainte. Il y prit des leçons d'hébreu d'un rabbin célèbre nommé Élie Lévita. Il acquit en partie à Rome la connaissance de cette parole divine sous les coups de laquelle Rome devait tomber. Mais ce voyage fut surtout à un autre égard d'une haute importance pour Luther. Non seulement le voile fut tiré, et le rire sardonique, l'incrédulité bouffonne qui se cachait derrière les superstitions romaines furent révélées au futur réformateur, mais encore la foi vivante que Dieu avait mise en lui fut alors puissamment fortifiée. Nous avons vu comment il s'était livré d'abord à toutes les vaines pratiques au prix desquelles l'Église avait mis l'expiation des péchés. Un jour, entre autres, voulant gagner une indulgence promise par le pape à quiconque monterait à genoux ce qu'on appelle l'escalier de Pilate, le pauvre moine saxon grimpait humblement ces degrés qu'on lui disait avoir été miraculeusement transporté de Jérusalem à Rome. Mais tandis qu'il s'acquittait de cet acte méritoire, il crut entendre comme une voix de tonnerre qui lui criait au fond du cœur, comme à Wittenberg et à Bologne, « Le juste vivra par la foi ». Cette parole, qui déjà à deux reprises l'a frappé comme la voix d'un ange de Dieu, retentit incessamment et avec puissance au-dedans de lui. Il se lève épouvanté sur les degrés où il traînait son corps. Il a horreur de lui-même. Il est honteux de voir jusqu'à quel point la superstition l'a abaissé. Il fuit, loin du lieu de sa folie. Ce mot puissant a quelque chose de mystérieux dans la vie de Luther. Ce fut une parole créatrice pour le réformateur et pour la réformation. Ce fut par elle que Dieu dit alors « que la lumière soit ». Et la lumière fut. Il faut souvent qu'une vérité soit présentée à plusieurs reprises à notre esprit pour qu'elle produise l'effet qu'elle doit avoir. Luther avait beaucoup étudié l'Épître aux Romains, et cependant jamais la justification par la foi qui s'y trouve enseignée n'avait été si claire pour lui. Maintenant il comprend cette justice qui seule subsiste devant Dieu. Maintenant il reçoit pour lui-même de la main de Christ cette obéissance que Dieu impute gratuitement aux pécheurs dès qu'il porte humblement ses regards sur l'homme-Dieu crucifié. C'est ici l'époque décisive de la vie intérieure de Luther. Cette foi qu'il a sauvée des terreurs de la mort devient l'âme de sa théologie, sa forteresse dans tous les périls, la puissance de ses paroles, la force de sa charité, le fondement de sa paix, l'aiguillon de ses travaux, sa consolation dans la vie et dans la mort. Mais cette grande doctrine d'un salut qui émane de Dieu et non de l'homme ne fut pas seulement la puissance de Dieu pour sauver l'âme de Luther. Elle devint encore la puissance de Dieu pour réformer l'Église, arme efficace que manièrent les apôtres, arme trop longtemps négligée mais tirée enfin dans son éclat primitif de l'arsenal du Dieu fort. Au moment où Luther se releva dans Rome, tout ému et saisi par cette parole que Paul avait adressée 15 siècles auparavant aux habitants de cette métropole, la vérité jusqu'alors tristement captive et liée dans l'Église se releva aussi pour ne plus retomber. Il faut ici l'entendre lui-même. « Quoique je fusse un moine saint et irréprochable, dit-il, ma conscience était cependant pleine de troubles et d'angoisse. Je ne pouvais souffrir cette parole « justice de Dieu ». Je n'aimais point ce Dieu juste et saint qui punit les pécheurs. J'étais rempli contre lui d'une secrète colère. Je le haïssais de ce que, non content de nous épouvanter par la loi et par les misères de la vie, nous pauvres créatures déjà perdues par le péché originel, il augmentait encore notre tourment par l'Évangile. Mais lorsque par l'Esprit de Dieu, je compris ses paroles, lorsque j'appris comment la justification du pécheur provient de la pure miséricorde du Seigneur par le moyen de la foi, alors je me sentis renaître comme un nouvel homme et j'entrai à portes ouvertes dans le paradis même de Dieu. Je vis aussi dès lors la chère et sainte Écriture avec des yeux tout nouveaux. Je parcourus toute la Bible, je recueillis un grand nombre de passages qui m'apprenaient ce qu'était l'œuvre de Dieu. Et comme auparavant j'avais haï de tout mon cœur ce mot « justice de Dieu », je commençai dès lors à l'estimer et à l'aimer, comme le mot le plus doux et le plus consolant. En vérité, cette parole de Paul fut pour moi la vraie porte du paradis. Aussi, quand il fut appelé en des occasions solennelles à confesser cette doctrine, Luther retrouva-t-il toujours son enthousiasme et sa rude énergie. « Je vois, dit-il dans un moment important, la glose sur l'édit impérial en 1531, que le diable attaque sans cesse cet article fondamental par le moyen de ses docteurs et qu'il ne peut à cet égard ni cesser ni prendre aucun repos. Eh bien moi, le docteur Martin Luther, indigne évangéliste de notre Seigneur Jésus-Christ, je confesse cet article que la foi seule justifie devant Dieu sans les œuvres. Et je déclare que l'empereur des Romains, l'empereur des Turcs, l'empereur des Tartares, l'empereur des Perses, le pape, tous les cardinaux, les évêques, les prêtres, les moines, les nonnes, les rois, les princes, les seigneurs, tout le monde et tous les diables doivent le laisser debout et permettre qu'il demeure à jamais. Que s'ils veulent entreprendre de combattre cette vérité, ils attireront sur leur tête les feux de l'enfer. C'est là le véritable et saint évangile et ma déclaration à moi, docteur Luther, selon les lumières du Saint-Esprit. Il n'y a personne, continue-t-il, qui soit mort pour nos péchés, si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je le dis encore une fois, dussent le monde et tous les diables s'entre-déchirer et crever de fureur, cela n'en est pas moins véritable. Et si c'est lui seul qui ôte les péchés, ce ne peut être nous avec nos œuvres. Mais les bonnes œuvres suivent la rédemption comme les fruits paraissent sur l'arbre. C'est là notre doctrine. C'est celle que le Saint-Esprit enseigne avec toute la sainte chrétienté. Nous la gardons au nom de Dieu. Amen. C'est ainsi que Luther trouva ce qui avait manqué, au moins jusqu'à un certain degré, aux docteurs et aux réformateurs, même les plus illustres. Ce fut dans Rome que Dieu lui donna cette vue claire de la doctrine fondamentale du christianisme. Il était venu chercher dans la ville des pontifes la solution de quelques difficultés concernant un ordre monastique. Il en remporta dans son cœur le salut de l'Église.